Les Environneurs est un atelier chantier d'insertion fondé en 1996 à Gap sous l'impulsion de la municipalité. Son activité s'axe autour de l'entretien des espaces naturels et espaces verts ainsi que de la construction d'aménagements en bois. Au fil des années, la CI a noué de nombreux partenariats avec des entreprises du territoire pour permettre, à l'issue d'un accompagnement d'en moyenne 18 mois, le retour à l'emploi de ses salariés. Pour mieux comprendre les missions et le quotidien des environneurs, nous avons rencontré Angela Nunes, directrice adjointe et encadrante technique secrétariat de l'association, ainsi qu'Émilie Vial-Gem, coordinatrice des espaces naturels au sein de la structure.
Bonjour, je suis Angela Nunes, je suis directrice adjointe de l'association Les Environneurs.
Bonjour, je suis Émilie Vial-Gem, je suis coordinatrice des espaces naturels.
Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vos fonctions au sein des environneurs? Qu'est-ce que vous y faites?
Alors moi, je suis plutôt sur l'opérationnel, c'est-à-dire que je suis là au quotidien pour déjà venir en support de tous les collaborateurs en fonction des différents événements qui peuvent survenir, des questions qui se posent, etc. Je suis aussi encadrant technique d'insertion sur les parties secrétariat, c'est-à-dire que je manage deux voire trois personnes sur des postes en insertion au niveau administratif. Je suis donc encadrant technique d'insertion sur la partie administrative. Et plus largement, je m'occupe aussi de formation, des permanents, d'entretien. Individuel, j'ai pas mal de missions dont j'ai la charge et qui me plaisent tout particulièrement.
Alors moi je m'occupe plus particulièrement des espaces naturels, donc je coordonne tout ce qui est chantier. Donc en fait j'ai une reconversion professionnelle où donc je suis partie en formation et j'ai effectué un stage en entreprise donc aux environneurs, c'était en 2020. Et après ce stage, du coup, j'ai été accompagnée aux environneurs, donc avec un contrat aidé pendant quelques mois. Et à l'issue de ces quelques mois, j'ai signé un CDI, aux environneurs. Et puis au jour d'aujourd'hui, je suis coordinatrice de l'activité espace naturel. Donc nous avons 4 équipes actuellement. Et donc je planifie, je m'occupe de la relation client, du parc automobile, tout ce qui touche aux espaces naturels.
Comment ça se passe quotidiennement pour vous au sein de la structure? Quelle est une journée type, on va dire?
Ça peut être très varié. Tous les jours, ça va être de la planification, en fait, parce que les plannings chantiers peuvent changer très régulièrement, presque toutes les heures. Après, ça va être des entretiens des machines, des entretiens du matériel, des véhicules, la prise de rendez-vous avec les clients, la planification des visites de chantier pour nos chefs d'équipe qui font eux-mêmes leur devis. Donc voilà, c'est à peu près comme ça que tous les jours, ça se passe.
On va revenir donc sur les environneurs. Alors cette structure, d'où vient-elle? Quelle est son histoire? On va le rappeler, c'est une association de loi 1901.
Tout à fait, c'est une association en loi 1901. Tout d'abord, moi, je voudrais resituer un petit peu ce que c'est l'insertion. L'insertion par l'activité économique, qu'on appelle plus communément donc l'IAE, compte 140 000 salariés en 2022 en France et à peu près 4 000 structures. Parmi ces structures, il y a différents types de structures. Les 4 principales structures sont les ACI, ateliers chantiers d'insertion, les AI, associations intermédiaires, les EI, entreprises d'insertion, et les ETTI, entreprises de travail temporaire d'insertion. Nous, les environneurs, nous sommes un atelier chantier d'insertion. Donc nous accueillons des personnes particulièrement éloignées de l'emploi. Nous avons un conventionnement pour ça avec l'État, puisque nous sommes en partie financés par l'État, mais pas que, puisque nous avons une grosse partie de notre budget qui provient de chiffres d'affaires et de chantiers que nous réalisons. Donc ce conventionnement avec l'État nous fixe un objectif de sortie dynamique, on appelle ça comme ça. C'est des parcours d'insertion qui sont plus ou moins réussis. Et donc nous, on doit chercher à faire en sorte que les personnes, quand elles quittent la structure, aillent vers soit un emploi durable tel que CDI, soit une formation qualifiante. Elles peuvent parfois aussi faire valoir leurs droits à la retraite également. Ça fait partie des choses qui peuvent être comptabilisées comme positives, puisqu'on les accompagne le temps qu'elles puissent prendre leurs droits à la retraite. Pour faire tout cet accompagnement, nous sommes 12 permanents, répartis sur des postes donc, de direction, conseillère en insertion professionnelle, comptable, responsable d'activité, coordinatrice de travaux, c'est Émilie qui est à mes côtés, des chefs d'équipe professionnels, donc tous issus du milieu ordinaires, donc qui ont d'abord une expérience dans leur métier et qui viennent ensuite aux environneurs pour encadrer des personnes en insertion. Nous accueillons dans notre chantier d'insertion environ 26 personnes en insertion en permanence. Ce sont des entrées et des sorties permanentes, sachant que la durée moyenne d'un parcours d'insertion aux environneurs est de 18 mois. Sinon, pour ce qui est de l'historique des environneurs, nous sommes nés il y a déjà 28 ans sur l'impulsion de la ville de Gap qui cherchait à l'époque une structure pour entretenir les cours d'eau et notamment la Luye et ses affluents. Donc il y a eu une première équipe comme ça constituée, l'association est née comme ça. Et très rapidement, elle s'est intéressée aussi à l'aménagement bois, à la construction bois, des petites constructions où à l'époque c'était de l'entretien des jeux, les aires de jeux pour les enfants qui à l'époque étaient en bois. Donc ça a commencé comme ça, le bois. Et puis petit à petit, nos métiers se sont tous professionnalisés, que ce soit sur la partie espace naturel que sur la partie construction bois. Et au fil des années, on s'est vraiment professionnalisé et on a fait des ouvrages de plus en plus techniques et qui aujourd'hui rencontrent un franc succès auprès de nos clients. Voilà.
Alors, vos activités sont multiples. Est-ce que vous pouvez nous en faire un panorama ?
Donc, du coup, pour les espaces naturels, on propose du bûcheronnage. Donc, c'est tout ce qui est abattage, démontage, débroussaillage et élagage. On fait aussi beaucoup d'entretien de rivières, notamment avec la ville de Gap. On a aussi des chantiers de balisage de sentiers de randonnée pédestre et où on fait aussi l'entretien. Et après, on a ce qui est des travaux de protection incendie, ce qu'on appelle les OLD et les DFCI, et les clôtures périmétrées d'immédiat de captage. Ça, c'est pour la partie espace naturel. Après, on a une partie espace vert, donc aménagement de jardin et l'entretien. Le petit élagage, la taille de haies, d'arbres et d'arbustes et de la tonte. On peut faire bénéficier de 50% d'abattement fiscal aux clients, en fait. Et puis, on les accompagne aussi pour les formalités permettant de bénéficier de l'avance immédiate pour qu'ils puissent avancer que les 50% restants. Après, il y a l'atelier bois, fabrique et pose, donc il y a les cabanes et les abris héliportables, les cabanes pastorales, donc il y a eu le lozon qui va être inauguré le 12 juillet. On fait donc les modules pour extension de maison, chambre, bureau, travail, c'est environ 20 mètres carrés. Nous faisons des abris voyageurs, des carports, des belvédères, des terrasses, des clôtures, des tables et des pans de pique-nique et des panneaux d'orientation et directionnels.
Les cabanes et héliportables, ça a démarré en 2014 avec un appel d'offres publié par le parc des Écrins, le parc national des Écrins. Nous avons à l'époque imaginé une cabane et construit une cabane. À l'époque, elle était en mélèze au tout début et puis finalement, on a dû la modifier, la faire en raie de cédar pour qu'elle puisse être héliportée. Et petit à petit, on a fait évoluer le modèle de notre cabane héliportable puisqu'elle a remporté un grand succès auprès des éleveurs qui l'utilisaient pour les bergers, puisque c'est un ouvrage à la base destiné aux pastoralisme et dans le cadre de la prédation du loup pour mettre les bergers à l'abri. Donc on en a déployé quand même pas mal sur notre territoire. Et ces cabanes, il est vrai qu'elles ont beaucoup évolué grâce à la compétence des différents chefs d'atelier qu'on a vu passer aux environneurs. Et maintenant, on a même un modèle avec un petit module sanitaire, douche, avec panneaux solaires, etc. Ça plaît beaucoup puisque nos clients sont pas uniquement locaux. On a aussi des clients au-delà de notre département, dans le sud, dans le sud-ouest également. En Savoie et en Haute-Savoie.
Et donc aujourd'hui, vous parliez de ces partenariats notamment avec le département, la ville, d'autres partenaires, notamment dans d'autres départements. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les environneurs, c'est une association qui est reconnue et qui a il me semble aussi eu des prix.
On a cette fierté de dire qu'on a quand même remporté quelques prix qui viennent souligner et mettre en lumière le travail de toute l'équipe des environneurs, les permanents comme les personnes en insertion, parce que c'est vraiment un travail collectif. Alors on a eu un prix en 2018, le concours Greenlink Terragir, où on est arrivé premier sur 53 candidats au niveau national. Donc là, on a été très flattés d'avoir ce prix. On est allé le chercher à Paris au ministère de l'Agriculture. En 2020, on a été lauréat du prix Innovation Environnement dans la catégorie bois. C'était un prix qui a été organisé par le Rotary Club de Gap. Moi, personnellement, j'ai reçu, j'étais très contente, le prix aux Alpes au féminin dans la catégorie développement durable en 2021. Donc, en 2022, on a été lauréat départemental du trophée Pro Groupama. En 2023, on a été lauréat du prix Ténacité, ça nous correspond bien, dans le cadre des trophées de l'entreprise de l'ESS organisés par la région Sud. Donc ça, c'est le dernier en date et j'espère que qu'on va continuer de présenter notre candidature à d'autres concours tels que ceux-ci.
Ces partenariats-là permettent aussi aux salariés ensuite de trouver des postes dans des structures partenaires. Je sais qu'il y a eu aussi des choses avec Vinci notamment.
Alors oui, c'est ça, on a un partenariat avec Charles KRATP, c'est une entreprise qui fait partie du groupe Vinci, même si avant on a aussi travaillé avec Vinci dans le cadre de la construction de la rocade il y a quelques années, où on a pu mettre des équipes à disposition dans le cadre de contrats de sous-traitance. Mais pour Charles KRATP, nous avons mis en place effectivement un partenariat qui fait que nous envoyons des personnes donc que nous définissons comme étant déjà prêtes à travailler. On a levé à peu près l'ensemble des freins sociaux et donc là, elles peuvent aller travailler, elles ont plus trop de freins du style logement, la santé ou des problèmes financiers, etc. On a réussi à travailler sur ces points-là. Donc, on peut mettre en place un contrat, enfin une période d'immersion, pardon. C'est un stage donc, qui est rémunéré. Nous, la personne reste rémunérée par les environneurs, mais l'entreprise n'a pas à rémunérer la personne en stage. Donc, ces stages peuvent durer de 1, 2, 3, 4, 5 semaines même. Le temps de se familiariser avec le poste et l'entreprise qui les accueille. Et derrière, il y a la mise en place d'un contrat en intérim. On travaille aussi en partenariat avec des agences de travail temporaire, dont Humanis. Et derrière, il y a la plupart du temps un CDI à la clé. Donc, c'est un beau partenariat qu'on a mis en place avec Vinci depuis 2021.
Et vous parliez juste avant des freins qui se présentent pour les salariés. En fait, ces freins, quels sont-ils et comment on peut les lever ?
Alors, les freins, oui, ils sont nombreux. Alors, dans l'insertion, on en identifie quand même quelques-uns qui sont assez récurrents. Donc, ça va être des problèmes de formation, de santé, de mobilité. Peu de gens ont le permis. On a 50% d'étrangers. Donc, ça veut dire que ces 50%-là ne savent bien souvent pas lire le français ni l'écrire et pas le parler. Donc, c'est difficile. C'est d'autant plus difficile pour les chefs d'équipe sur les chantiers parce qu'il faut qu'ils leur donnent des consignes et notamment des consignes de sécurité. C'est pas toujours évident. Et dans l'ensemble de ces freins, il y a des freins de logement aussi, administratif, avec des questions de titre de séjour à renouveler, etc. Donc on a identifié à peu près 7 freins qu'on retrouve à peu près chez tout le monde, pas toujours tous, mais quand même la plupart y sont souvent. Donc là, on a des conseillères en insertion professionnelle, une qui est à plein temps chez nous et une qui travaille à la fois chez la Petite Ours et aux environneurs, donc elle est partagée sur les deux chantiers d'insertion. Et leur travail vraiment consiste au départ à diagnostiquer tous les freins et sur une période qu'on va appeler nous, on a déclaré notre accompagnement sur 3 périodes, donc P1, P2, P3. Sur la période 1, on va s'attacher vraiment à faire tomber tous les freins et à permettre à la personne de pouvoir se concentrer uniquement sur son projet pro. Et ensuite, on va sur la période 2, on a appelé ça le P2I, c'est le parcours d'insertion individualisée. La période 2, on va vraiment faire émerger le projet pro. Et la période 3, c'est vraiment les immersions dans les entreprises en vue d'embauche. Et c'est vraiment la recherche d'emploi active, la mise à jour du CV, des simulations d'entretien, des visites d'entreprise, etc. Voilà comment se dessine notre accompagnement au quotidien.
Donc en parallèle de l'activité de chantier qui va être faite soit à l'extérieur, soit ici, vous allez avoir par exemple des cours de français, des accompagnements administratifs qui vont être mis en place avec les conseillères ?
Oui, tout à fait. Il y a beaucoup d'ateliers, il y a beaucoup d'heures de formation. En 2023, par exemple, ce sont 4010 heures en tout de formation dispensées et en interne et en externe. On a des formations liées à la sécurité et à nos métiers, hein, la sécurité sauveteur-secouriste du travail, habilitation électrique, prévention incendie, des choses comme ça. Et après, on a toutes les formations liées au projet professionnel. Et effectivement, sur le français, on a une nouveauté cette année. On a fait intervenir quelqu'un qui est venu chez nous pendant une semaine faire du français intensif 35 heures pour un groupe de 7 personnes. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte que c'est vraiment une marche qui est franchie parce qu'on a le retour des chefs d'équipe sur les chantiers qui nous disent « Ah, un tel prend beaucoup plus la parole, essaye de trouver les mots en français ». Donc on a déjà mis en place cette session 2 fois dans l'année, une fois en mars et une deuxième fois là récemment au mois de mai. Et c'est quelque chose qu'on aspire à réitérer parce que c'est vraiment probant et c'est vraiment de la formation concentrée sur un temps court, vraiment intense, avec un bon professionnel qui est là. Les gens sont motivés, c'est un petit groupe intra-environneur, donc ils se connaissent. Donc ça aide vraiment à libérer la parole. Et donc en plus, on prépare des petits visuels avec des mots qui sont des mots utilisés dans le cadre de nos métiers. Et on s'aperçoit que c'est vraiment très efficace.
Et vous parliez tout à l'heure de période d'accompagnement d'environ 18 mois avec 3 périodes au sein de ces périodes-là. Je pense que c'est une constante ces 18 mois ou est-ce que c'est vraiment adapté au cas par cas pour chaque salarié ?
Non, c'est vraiment adapté à chaque salarié parce que justement, toutes les personnes sont différentes, ont plus ou moins de difficultés et ont plus ou moins de problèmes à solutionner. C'est vraiment une moyenne 18 mois. Donc, on a quand même un agrément qui est limité à 24 mois puisque les personnes qui arrivent chez nous, donc on parlait de prescripteurs, les prescripteurs qui nous envoient les personnes sont soit le Pôle emploi, soit le conseil départemental pour les personnes qui sont bénéficiaires du RSA. Il faut savoir que plus de la moitié de nos salariés sont au RSA quand ils arrivent chez nous. Donc, ce qui fait qu'en arrivant chez nous, ils sont plus au RSA, ils sont salariés. Donc déjà, c'est quand même un vrai changement pour eux. On a des profils soit qui sont au RSA, effectivement, soit qui sont indemnisés Pôle emploi ou pas du tout indemnisés. On a des profils assez variés, effectivement.
Et on parlait aussi de retour à l'emploi. Les objectifs sont-ils atteints pour les environneurs ? Vous avez un taux très satisfaisant de retour à l'emploi ?
Oui, alors donc l'objectif, il est fixé en début d'année par les institutions. On tourne autour de 60-62% de sortie dynamique, ça s'appelle comme ça. Voilà. Chez nous, on tourne autour de 80-85% chaque année. 2023 se termine avec 80% de sortie dynamique. Ça veut dire que ce sont des gens qui sont allés vers des contrats, soit des CDI, des CDD de plus de 6 mois, des entrées en formation qualifiante. Parce que mine de rien, pour entrer en formation qualifiante, bah, il faut savoir parler le français un minimum. Il faut peut-être avoir un peu de mobilité, etc. Donc c'est vraiment un vrai travail qui est fait avant, pour pouvoir mettre les personnes, on va dire, prêtes à l'emploi, si je peux me permettre la formule. Mais c'est grâce à un travail très engagé de l'ensemble de l'équipe. Alors, pas seulement les conseillers en insertion, il y a aussi les encadrants. Dans le monde de l'insertion, on les appelle les encadrants techniques. Nous, on les appelle les chefs d'équipe. Ils font un travail aussi d'accompagnement, en fait, sur les chantiers. Parce que quand vous avez un salarié qui ne comprend pas quelque chose ou qui a des problèmes d'addiction ou autre, l'encadrant doit savoir quel comportement adopter. Il est là pour produire, mais il est là aussi pour accompagner. Faire de la pédagogie. Donc en fait, ils ont plusieurs casquettes, nos chefs d'équipe. Donc je voudrais leur rendre hommage aussi à travers cette interview parce que c'est vraiment pas facile pour eux. Ils ont vraiment des chantiers de qualité qui sont rendus à chaque fois auprès du client puisque 98% de nos clients se disent satisfaits des chantiers. Mais c'est grâce à des efforts de tous et pour les chantiers, c'est vraiment les chefs d'équipe qui sont là avec une vraie mission vis-à-vis des personnes qu'ils encadrent.
Et dernière question, justement, parler d'actualité. Qu'est-ce qui est à venir pour les environneurs ?
Au niveau de l'actualité, il y a un changement au niveau de la gouvernance depuis le 21 mai dernier. On a un nouveau président qui s'appelle Alain Tex, qui est une personne issue du secteur bancaire, qui est toujours en activité. Et l'arrivée de ce nouveau président va aussi permettre un petit changement au niveau du fonctionnement avec la gouvernance, c'est-à-dire beaucoup plus de perméabilité entre la gouvernance au quotidien et les opérationnels, c'est-à-dire des actions et des missions transverses entre les personnes qui font partie du CA et les opérationnels, ce qui fait que ça va créer du lien et ça va vraiment mettre de la dynamique. Lui a l'intention de faire entrer au CA, à notre CA, donc des personnes de son entourage en fonction de leurs compétences, notamment des personnes qui vont avoir des compétences en RH, en droit ou alors même sur des métiers sociaux. C'est ce changement qui va se mettre en place d'ici la fin de l'année et pour les années à venir.
Eh bien, je vous remercie toutes les deux.
Merci à vous.
Merci.